Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 110e épisode du podcast Jeux vidéo, ton podcast Jeux vidéo, le salon de gaming de M. Smith. Steve Tremblay au micro cette semaine, c'est un épisode solo. Ouais, une fois de temps en temps, il y en a eu un, voilà, peut-être quoi, un mois et demi à peu près. Une fois de temps en temps, comme je l'ai déjà dit par le passé, quand le timing est un peu compliqué, quand ça donne un peu moins des fois dans la gang ou quand ça me tente tout simplement, hein. Des fois, c'est toutes ces réponses. Je fais un épisode solo comme ça. Fait que moi, 110e épisode cette semaine. Il nous en reste encore quelques-uns quand même. Encore 4 à peu près. Le 110, 111, à peu près 4 ou 5 épisodes d'ici la fin de la saison 2023-2024 du Salon Gaming de M. Smith. Oui. Tu sais, je vais sûrement... On va faire une pause estivale comme on a fait l'an passé, comme on a toujours fait depuis que le Salon Gaming existe, depuis 5 ans. On a toujours fait une pause estivale, c'est à peu près 2 mois. Puis à chaque fois qu'on est au printemps, puis on va sûrement la redire, genre à l'épisode 113 ou 114. Ah, oh, cet été, on fera peut-être des trucs surprises, on verra. Puis finalement, on n'en fait jamais. Je le sais. Mais peut-être que là, cette année, dans l'été, maintenant, on se dira, on fait un party, crée mon enregistre, puis on se fait quoi. Ça serait malade hein, d'écouter ça, pareil. En tout cas, on en rejoindra de ça un peu plus tard, parce qu'on a quand même quelques idées pour l'épisode final au mois de juin. Ouais, fait que ce soir, comme d'habitude, ouais, l'épisode solo sont toujours un peu plus personnels, mais ce soir, oui, il y aura une portion un peu perso au début, mais c'est sûr que je vais revenir sur les annonces de fermeture de studio chez Microsoft, Xbox, Bethesda, puis ce qui s'est passé dans les derniers jours. Brièvement, quand même, vous savez, c'est pas trop... Je cours pas après la controverse, je cours pas après les trucs, là, tu sais, pour choquer ou qui me choquent, ou tu sais... Je dis tout dans le salon de gaming, mais tu sais, des fois aussi, je me garde une réserve pour pas aller pour rien dans des affaires qui peuvent, entre guillemets, brasser de la marde. Là. C'est pas mon genre pantoute, mais je veux quand même revenir sur ces annonces-là. Les annonces aussi par rapport, ben plutôt les informations qu'on a eues par rapport à Nintendo, là, les gros chiffres de vente qu'on a eus, les derniers résultats du dernier trimestre, les annonces de Switch 2 enfin, hein, un peu de concret quand même. Je vais revenir un peu aussi sur Helldivers 2. Avec cette polémique qu'il y a eu. Il y a beaucoup de polémiques quand même, on y échappera pas. T'sais, je dis en même temps que je vais me retenir, mais pas tant non plus. Connaissez, hein, connaissez le moineau. Ouais, fait que Helldivers 2, qu'on va jaser un petit peu aussi par rapport à Steam et toutes ces patentes-là. Puis là, la chronique à quoi je joue, je vais vous parler un petit peu de Hades 2, que je me suis acheté sur Steam Deck, que j'avais donc hâte de jouer à ça, à Hades 2. Fait que là, c'est bien cool. J'ai commencé à jouer. J'ai passé déjà, je pense, j'ai 5 heures de fête dessus. Fait que je pourrais vous en glisser quelques mots. Rappelons que c'est quand même un roguelite. Fait que tu meurs, puis tu recommences. Fait que quand t'as fait 5 heures déjà, t'as fait quelques runs. Fait que, puis j'ai pas fini, loin de là. Fait qu'on s'en jasera un peu, parce qu'il est en accès anticipé. Et puis, Immortals of Avum. Oui. On va en parler dans un podcast au Québec, Immortals of Avum. On a un auditeur qui me disait justement, c'est un peu plate, il n'y a pas personne qui a parlé d'Immortals of Avum. Pourtant, c'est Danick Levasseur, on n'a pas le nommé, qui me disait ça. J'ai dit, attends, j'en fais la promesse, le serment, n'est-ce pas, que je vais en parler dans un podcast. Mais drette là, ça va être ça, je vais pouvoir parler à soi d'Immortals of Avum qui était gratuit sur le PlayStation Store, sur le PlayStation Plus. En PlayStation Plus hein. Bref, c'est parti. Ça peut faire partie même quasiment des premiers sujets, hein? Mais pas des premiers sujets, là. Le petit bloc perso, disons ça tout simplement. Je voulais juste savoir, là, c'est sûr que j'aurai pas la réponse parce que je peux pas vous entendre quand vous me parlez. Est-ce que vous aimez ça, la musique de jeu comme jingle entre les sujets? T'sais, à ce temps, je mets l'intro du salon de gaming au début, la musique du salon de gaming à la fin. Parfois, je la glisse à travers encore, mais cette saison, j'ai essayé faire quelques petits changements, hein, tu sais, prendre des petites twists un peu différentes puis tout, mais tu sais, si vous me dites que j'aime mieux que je laisse le jingle entre les notre bonne vieille sonorité que j'aime tant, tu sais, en gaming de M. Smith, entre les sujets, je vais la laisser, je vais la remettre comme avant. J'aimais ça de mettre des tunes de jeux vidéo. Vous connaissez mon amour du rétro gaming, ces jeux-là de l'époque, c'est la musique 8-16 bits que j'affectionne tant. J'aime bien ça d'en mettre entre les sujets. Fait, vous me direz voir si vous aimez ça. Puis tu sais, des fois après les podcasts, gênez-vous pas pour me dire si vous avez deviné les tunes que j'ai mis. T'sais, des fois, il y a du Ninja Gaiden 2, du Shovel Knight, du Contra. Il y a plein d'affaires de même. Fait que tu sais, de savoir un peu si vous avez deviné les tunes, j'aimerais ça pareil voir. Ça pourrait devenir un petit concept de devinette après podcast. Ça pourrait être cool. Sinon, ben, il y en a qui m'ont demandé, ben, deux personnes récemment, depuis le dernier épisode, dans le fond, qui m'ont demandé si ma Steam Deck, je trippais tout le temps autant. De toute évidence, ils n'avaient pas vu mes récents tests. La Steam Deck, c'est toujours aussi malade. Parce que je comprends quand même qu'il y a des auditeurs qui ne regardent pas la chaîne ou qui ne regardent pas, mettons, les textes ou whatever. Il y a des auditeurs du podcast, puis je vous salue. Hein. Oui, ma Steam Deck, ça a été le meilleur achat que j'ai fait. Tu sais, des fois, on fait des achats un peu coup de tête. T'sais, on a vu quelque chose, on trouvait ça bien hot. Puis, d'un fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais d'un fois, puis je parlais avec mon fils en fin de semaine qui avait un peu la même. Malheureusement, il a hérité de ça. Tu sais, tu as super hâte d'avoir quelque chose, mais l'excitation d'attendre ton objet est quasiment plus grande encore que de l'avoir. Tu sais, hey, j'aimerais ça tellement faire acheter telle affaire. OK, go, je le fais, je fais l'achat. Là, je surveille les dodos. Quand est-ce qu'il va arriver? OK, il arrive dans 2 semaines. J'ai super hâte. Je check à tous les jours. Je fais des refreshs. Oh yes, il est rendu aux douanes à telle place. Tu le reçois, tu es super excité. Tu joues avec une semaine ou deux. Puis, tu y retouches pas pendant 3 mois. Des fois, ça fait ça, tu sais. Puis, tu sais, mon gars, ça a fait un petit peu ça avec sa guitare électrique puis son ampli. Tu sais, il a du fun à jouer avec, mais il joue pas tant que ça. Au début, il voulait, il avait super hâte. Puis là, j'ai dit, crème, tu devrais peut-être jouer un peu. Tu as acheté ça, tu voulais jouer à de quoi, j'imagine? Tu voulais t'en servir, tu sais. Bref, mais ma Steam Deck, elle, ben ça a pas fait ça. Ma Steam Deck, j'avais super hâte. Puis un coup que j'ai craqué pour l'avoir, puis que j'ai fait le move, ça a été la console que j'ai le plus joué dans l'année, que j'ai le plus utilisé. Encore aujourd'hui, tu sais, là, ça fait. En janvier, ça a fait 1 an que je l'avais. C'était le deuxième modèle, tu sais, pas le premier, mais le deuxième. Je dis pas la OLED, là, mais tu sais, t'avais le de base, t'avais le modèle un peu plus cher, puis le troisième modèle vraiment plus cher. C'est entre les deux, la 256 GB, le SSD. J'ai racheté une carte, 1 Tera en plus pour mettre plus de mémoire, parce que ça se remplit quand même assez vite. Les jeux sont quand même gros sur PC. Mais c'est clairement la meilleure console, la console que j'utilise le plus. J'ai eu aucun bris, aucun problème avec, pas de truc louche physique qui a mal marché. La plupart des jeux que j'ai, là, je suis rendu genre de 75 jeux. J'en installe, j'en désinstalle à un moment donné, parce que je sais que je jouerai pas tant lui. OK, je l'enlève. Ah, oh, je l'ai passé, celui-là, je ne touche plus, je le mets là-bas. Il y a tellement des ventes de jeux pas chers sur Steam en plus, fait que tes jeux coûtent jamais cher, fait que ça, c'est vraiment cool. Mais tellement de bonnes consoles portables. Puis tu sais, oui, l'autonomie m'a rarement gêné. Tu sais, ça m'a dérangé quand c'était des jeux qui tiraient vraiment beaucoup de jus. Tu sais, là, que genre le fan vire dans le fond quasiment, puis là, je sens que la batterie... Tu sais, quand j'ai joué à Squad, là, le jeu de tir en ligne, ça bouffait la batterie, mon ami, là, genre 45 minutes, plus de batterie, puis en plus, tu sentais que le jeu n'était pas super stable, puis t'es pas configuré. Tu sais, la pastille était jaune pour Steam Deck, tu sais, en voulant dire que c'est jouable, mais il était clairement pas optimisé pour se jouer à la manette, fait que j'avais pas vraiment de fun, tu sais. Puis il tirait de la batterie. Fait que, tu sais, quand t'as un jeu de même qui tire bien du jus, anyway, tu tripes pas tant. Fait que j'aime mieux trouver des jeux qui roulent quand même très bien, qui sont super beaux, qui donnent de belles performances, qui tirent pas trop de jus. Puis je peux faire un genre de 2 heures avec. Puis c'est bien correct, je la branche après. Mon but, c'est pas d'aller me promener en haut d'une montagne, de jouer avec ma console, puis l'éclairer et espérer qu'elle se recharge avec le soleil, puis avoir 10 heures d'autonomie. Non. Quand j'ai joué 1 heure avec, 1 heure et demie, c'est correct. Puis au pire, je la plug après, puis je rejouerai plus tard. Pour mon gaming que je fais au quotidien, c'est parfait comme ça. Si vous avez à travers vous, les auditeurs, auditrices, s'il y en a qui ont une Steam Deck, je sais qu'il y en a quelques-uns, entre autres, dans la page Facebook, mais je ne sais pas si vous êtes des auditrices ou auditeurs. Dites-moi si vous l'aimez toujours autant, mais moi, c'est vraiment une console que j'adore. Ouais, j'ai plein d'affaires à jaser, fait que je veux quand même y aller assez rondement. Ma pression, il y en a qui m'ont demandé, puis Steve, ta pression. Ben, c'est pas réglé, ma pression pour mon cœur, qu'on parle de la santé, là. Tu sais, je vous avais dit, j'avais eu mes résultats, ma sanguin, tout est beau, tous mes tests, tout est merveilleux. J'avais commencé à prendre une petite pilule pour m'aider à baisser ma pression, mais ça marche fuck all. Ils ont donné genre 2,5, après ça 5 mg, après ça 7,5, mais ça marche pas. Ça fait fuck all. Ça n'a pas marché, ça fait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois que je prends ça, ça n'a rien donné. Un bouton, on aurait dit que ça avait une genre de petite baisse, mais pas vraiment. Fait que ma pression, elle n'a jamais baissé. Là, j'ai commencé une autre patente depuis 2 jours. Fait que là, ils disent le combo de ces deux pilules-là, celles que je prenais déjà avant, plus la nouvelle, à ce moment-là, ça devrait fonctionner. Fait qu'on croise les doigts. J'ai bien des projets, bien des choses à faire. Fait que ça ne me tente pas de claquer trop vite. S'il vous plaît. Fait que c'est ça. Puis l'effet secondaire de la deuxième pilule qu'ils m'ont donné, ce qui est un peu con, c'est que c'est un diurétique. Là, j'ai dit à la pharmacienne, c'est quoi ça, diurétique? Elle dit ça, M. Tremblay, diurétique, ça fait aller faire pipi. Ah! Fait que bon, fait que c'est ça. Si vous voyez me promener m'amener avec une couche dans un cosplay, dans un Comic-Con, pose plutôt pas de questions, mon ami. C'est mes pilules. Ben, c'est ça. Il y avait juste ça. Deux petits sujets rapido. Hein? Ma Steam Deck, puis ma pression. Des fois, ça va vite de même. Il y a des journées comme ça, puis je suis en vacances cette semaine, fait que je prends ça bien chill, mon ami. On va aller vers le premier sujet. De se deviner c'était quoi la toune, là. C'était quoi la musique de jeu que j'ai mis? Hein? Ouais. Vous le savez, hein, d'habitude, j'essaie de focusser sur le positif dans l'industrie du jeu vidéo. Mais il y a des semaines comme ça, des fois, qui se passent des affaires un peu plus plates puis qui nous frappent un peu plus. Puis là, on arrive avec ces fameuses annonces hier de Microsoft qui ferme 4 studios. Bon, il y en a un qui se fusionne. Il y en a qui rejoint, en fait, l'équipe de Zenimax Online Studios, qui était Roundhouse Games. Qui rejoint donc ZeniMax. Fait que c'est une fermeture, mais en même temps, les gens qui sont là vont aller travailler à une autre place et qui sont transférés, s'ils le veulent bien entendu. Hein, t'es quand même pas obligé. Mais j'ai cru comprendre aussi que ça faisait genre 3 ans que Nintendo avait, que pas Nintendo, mais que Microsoft avait acheté ces studios-là, puis que t'es refermé après, c'est sûr que c'est un peu pas mal poche. Mais il y a plein d'affaires, il y a plein de lignes en dessous. Mais tu sais, si on y va un peu rondement, là, pour vous résumer un peu ceux qui n'ont pas vu. Donc, outre Roundhouse Games, qui était fermé, on a Arkane Austin, donc le studio qui avait fait Redfall et Prey, entre autres. Non, j'avais aimé ça, Prey, dans le temps. C'était quand même pas pire, ce jeu-là. 2017, dans ce coin-là. Ben, qui ferme. Il va fermer. Il n'y a pas de Arkane Lyon, lui, il reste ouvert. Tu sais, ceux-là qui ont fait Deathloop, Dishonored, qui sont en train de travailler sur Blade. Ça va être cool, ça. Je suis curieux de voir ce jeu-là, quand même. Fait que c'est ça, ouais. Arkane Austin, donc Redfall Prey, fermé. Fait que ceux qui avaient acheté la grosse version, l'édition Hero, ils disent que pour être remboursé, ils étaient censés avoir du DLC en plus pour Redfall. Mais finalement, ben, vous l'avez dans l'os, il n'y aura pas ça. C'est sûr que, bon, on le sait, on l'a vu, Redfall, ça n'a pas pogné. Le jeu était quand même moins pire, ou comment je dirais ça donc, moins mauvais que je pensais. Tu sais, les premiers échos, quand ils ont sorti les premières critiques, là, c'était comme, ouais, vraiment pas fort, c'est pas bon, pas 60 FPS, 4K, ray tracing, ouais, nanana. Quand je l'avais joué maintenant, quelques mois, l'automne dernier, je pense, je ne l'ai pas fait au complet, mais de ce que j'avais fait, j'avais trouvé ça quand même le fun. Je trouvais ça plate que ce soit un jeu comme, je comprenais pas trop le principe de tout. J'aimerais ça pour une campagne solo, relax, de moi-même, que je bute des zombies, des vampires. Mais c'était pas vraiment ça, puis bref, c'était quand même pas pire, là. Mais faut le reconnaître, ça n'a pas eu le succès escompté, puis ça fait des années qu'on dit à Microsoft, à Xbox, on veut des exclusivités, on veut des nouvelles IP, des nouvelles licences de jeux, pas juste Halo, Forza, Gears of War. Ça tourne toujours autour de ça. T'sais. Non, on veut des nouvelles affaires, des nouveaux jeux, des nouvelles patentes. Fait que là, ils disent, OK, on essaye avec Redfall. On met ben du cash pour mousser ce jeu-là. Rappelez-vous, il y avait de la pub à côté quand c'est sorti. Puis ça fait de pétate. Puis on l'a entendu souvent, là, des exclusivités. Encore cet hiver, on en a parlé dans le podcast là, que Sony disait d'avoir des exclusifs à une console, ça coûte très, très cher. C'est un gros risque financier que tu prends. C'est beaucoup d'argent. C'est des millions de dollars que tu peux mettre des fois dans des jeux, dans du marketing, dans du personnel pour faire un jeu. Puis une nouvelle IP en plus, une nouvelle licence, c'est encore plus risqué. T'sais. Ben là, lui, ça n'a pas marché. Ben, on ferme le studio. C'est-tu juste, il y a sûrement plein de raisons économiques à travers tout ça, mais bon, je n'irai pas là-dedans. Tango Gameworks, qui ont fait Hi-Fi Rush, l'excellent Hi-Fi Rush, qui ont fait aussi Evil Within, si je ne m'abuse, qui ferme. C'est sûr que lui, il est plate en tabarouette. Hi-Fi Rush, pour le peu que j'ai joué, j'avais trouvé ça bien cool. Je pense à Julien, entre autres, il me semble aussi, qui avait dit qu'il avait joué. Il y en a quelques-uns dans l'équipe qui avaient joué, là, du Sound Gaming de M. Smith, là, qui avait joué à Hi-Fi Rush. Super bon jeu, puis en plus qui se ramasse sur les autres consoles. C'est quand même surprenant. J'ai cru voir passer en plus aujourd'hui, là, que là, au moment d'enregistrer, on est le 8 mai, que le studio est en train ou avait ou est en train d'engager ou planifiait de le faire pour développer la suite du deuxième, parce qu'il était rendu là, tu sais, de faire le deuxième jeu, je veux dire. Puis là, ben, on l'aura pas. Et ça, c'est vraiment plate. C'est certain. Puis Alpha Dog Studios, qui faisait un jeu mobile qui s'appelle Mighty Doom, qui est fermé, qui va fermer aussi. Je pense que le jeu sort au mois d'août, où il sortait, ou ils finissent leurs activités au mois d'août, quelque chose du genre. Fait que c'est ces quatre choses-là. Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Studios, puis Roundhouse Games. Fait que, tu sais, pendant ce temps-là, ben, t'as Arkane Lyon, que lui, il reste fonctionnel, il reste ouvert. Ce que je disais tantôt, ce qu'ils font Blade présentement. Bethesda Game Studios, bien sûr, avec les Fallout, et Elder Scrolls, Starfield, ça reste ouvert. Machine Games, ceux qui sont en train de faire, entre autres, le jeu de Indiana Jones, ben ça reste, il n'y a pas de fermeture pour ça. ID Software, qui font les Doom, entre autres, c'est pas touché. Fait que tu sais, c'est pas la totalité, là. Il y a une restructuration, évidemment, qu'on fait. Est-ce qu'avec ces annonces-là, est-ce que finalement, ils vont changer d'idée, puis Indiana Jones va être multiplateforme finalement, puis Starfield aussi. Tu sais, là, rappelez-vous, en février, là, ou en fin janvier, début février, on annonçait, tu sais, que les ventes de consoles Xbox allaient vraiment pas bien, que les achats de jeux, ils s'en faisaient pas bien, bien, les gens prenaient le Game Pass, puis c'est tout. Là, on avait parlé dans le podcast, il me semble que c'était dans le 105 ou le 106. Je me demandais quasiment s'ils allaient arrêter de faire des consoles. Tu sais, je n'avais parlé au podcast, j'ai dit « Crime, ça va tellement pas bien Microsoft, je serais pas surpris que finalement, ils nous annoncent qu'ils font plus de consoles, puis qu'ils se concentrent sur le Game Pass, le service, les jeux à ce temps vont être dans TV intelligente, on arrête de faire des jeux pour rien, puis au pire, on va en faire, mais on fait plus de consoles, mais on rapetisse nos équipes, on arrête d'en acheter, puis tout ça. » Puis là, tu sais, on arrive, regarde, deux, trois mois, février, mettons, début février à mars, avril, mai, trois mois plus tard, puis finalement, on fait des fermetures là. Est-ce que, mettons, en février, c'était l'intention? Tu sais, quand ils ont eu une présentation qu'ils ont faite d'un podcast, puis pour ça, le Xbox Partner qui a annoncé justement que Sea of Thieves était porté, Hi-Fi Rush, je pense qu'il y avait Ground Dead, puis un autre jeu. Est-ce qu'à la base, à cette époque-là, il y avait des annonces de fermeture, mais quand ils ont vu les réactions des gens, pardon, ils ont voulu se montrer rassurants en faisant une présentation en disant on est en train de travailler sur la nouvelle console, on travaille sur une manette avec les gâchettes adaptatives, un retour haptique comme sur PlayStation 5. Vous allez voir, on va faire ça. Moi, j'avais été bien, bien surpris parce que je me disais, crime, je m'attendais à ce qu'ils ferment tes affaires, qu'ils arrêtent des trucs. Puis finalement, au contraire, c'est non, non, tout va bien, puis on roule. Comme une tentative de rassurer les actionnaires. C'est les investisseurs, c'est un peu ce que ça m'a donné comme feeling. Puis regarde, là, on voit aujourd'hui ce qui arrive. Quatre fermetures de restructuration. C'est triste pour les studios, évidemment. C'est plate pour le personnel. Puis là, j'ai vu passer tantôt en plus qu'apparemment, ça ne serait pas terminé pour les fermetures. Il y avait des rumeurs comme quoi que là, finalement, il y aurait peut-être d'autres restructurations à l'interne à faire, d'autres fermetures, encore d'autres mises à pied potentielles, parce qu'il y en avait eu justement, quand on parle de janvier-février, il y avait eu quoi, 1900 licenciements à faire le même. Dans d'autres entreprises ou dans d'autres, tu sais, Microsoft, mais il n'y avait pas juste lui, il y avait Sony, il y avait Embracer Group, il y avait d'autres personnes. Mais ce que j'avais vu justement passer tantôt, c'est que oui, il y aurait peut-être d'autres fermetures, d'autres choses à faire à l'intérieur de ZeniMax, mais il y avait aussi le fait qu'ils se demandaient encore si Call of Duty, finalement, il serait Game Pass ou pas. Parce qu'on s'entend que ce gros achat-là avec Call of Duty, justement, pour l'avoir exclusif Game Pass, si finalement il n'est pas Game Pass, ça te coûtait cher en tabarouette comme transaction, là. Puis finalement, ben, il serait pas Game Pass, aïe aïe. Fait que là, c'est sûr que ça ira pas bien. Fait que je comprends tu sais, puis en plus, on voyait, là, puis je vois un peu du coq à l'âne à travers tout ça quand je réfléchis en même temps que je vous parle. Tu sais, je suis seul, fait qu'il faut que je parle tout le temps. On voyait entre autres que Microsoft, c'était quoi qu'il disait qu'il faisait 20 milliards de bénéfices, genre par trimestre, une affaire de même. Fait que là, ils disent, ben là, ils font tellement d'argent, ils pourraient payer pour les garder en vie à place au lieu de fermer et tout, mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a sûrement des trucs, tu sais, même si quelqu'un me dirait, oui, oui, mais moi, je le sais, j'ai lu ça, j'ai entendu passer, j'ai ouï dire que, non, 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 mais t'es pas là. Si ça se trouve, il y a quelqu'un à l'interne, quelque part, dans l'entreprise, qui a entendu parler par un boss de Microsoft qui a nous l'expliqué, mais tu sais, à l'interne, si ça se trouve, eux autres étaient au courant depuis un mois, je sais pas. Il y en a qui vont me dire « Non, c'est pas vrai, j'ai entendu dire que... » Je me garde tout le temps une réserve. Moi, j'ai un côté de la médaille. J'en lis un peu sur Twitter, comme tout le monde, des avis, des commentaires. J'ai lu, entre autres, le Dinga Bakaba, qui est le co-directeur d'Arcane Lyon, qui a une belle lettre qu'il a écrite à l'industrie en général, puis aux éditeurs, aux développeurs. Mais c'est ça. Je comprends que l'entreprise fait de l'argent. Il faut qu'elle restructure. La marque Xbox ne va pas bien. Le Game Pass va bien, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'abonnements. Je ne pense pas qu'il ait atteint encore ce qu'il voulait. Xbox va. Le Game Pass va bien, mais le reste, ça ne marche pas bien. T'sais. Fait que, point de vue vente de consoles, si on veut dire, puis les exclusivités, il n'y en a pas. T'sais, c'est bien beau, tu rajoutes des studios, tu rajoutes. Puis je vais dire, comme le collègue, le collaborateur qui avait le parent disait, on attend encore la grosse claque Xbox Studios exclusive qui tâche, comme on dit, qui est vraiment hot, qui tire pleinement profit de la console. T'sais, le dernier Forza était super beau, mais c'est pas la claque qu'on veut. On veut une claque de Gears. On veut une claque d'une nouvelle licence qu'on revient pas, comment c'est beau puis que c'est hot. Il l'a pas eu, ben. Pendant ce temps-là, ben Sony lance des grosses exclusivités qui sont super hot, qui chaque année après année tombent dans les tops de l'année de plein de joueurs, plein de sites Internet, tu sais. Fait que, il y a de quoi à faire là. Je trouve ça triste. Je trouve ça plate parce que la marque Xbox, j'ai tout le temps un petit affect un peu plus fort pour ça, même à la base, quand j'ai eu ma Xbox 360 dans le temps. On avait parlé récemment d'un podcast. Fait que c'est sûr que ça me fait de quoi de voir la marque Xbox qui va pas bien comme ça. Mais je le répète encore une fois, là, tu sais, mais on n'est pas là, nous autres. Tu sais, on analyse tout ça. Là, on voit ça sur les réseaux sociaux. Là, Microsoft mange de la merde solide, on va le dire, excusez le mot. Xbox, c'est terrible. Là, je vois le Hellblade 2, Senua's Saga, qui s'en vient prochainement, là, à la fin du mois de mai, mi-mai, fin mai, dans une semaine ou deux, qui sera Game Pass. Mais là, il y a un post à un moment donné sur le j'oublie le nom du studio, mais le développeur qui fait Ninja Theory, qui lance le jeu. Puis là, il y a une photo, mettons, de l'actrice, la comédienne qui prête son visage puis qui campe le personnage principal. Ils mettent une photo pour dire que okay, c'est elle qui fait son rôle-là, checker-la bien en action bientôt dans le jeu, dans le nan. Puis là, il y a plein de posts en dessous. Bon, c'est ça, ça y est. Ninja Theory, c'est le prochain qui ferme. Gang de mange-marde. Xbox, c'est de la marde. Vous avez du front d'annoncer un jeu le lendemain. Après ça, à chaque fois que Microsoft fait une publication, je comprends que les gens, au lendemain, tout ça, sont échaudés. Mais en arrière d'un écran, c'est facile d'aller dire n'importe quoi puis d'aller écrire des commentaires haineux. Tu sais... On chiale, mais au final, les gens qui vont venir chialer sur Microsoft Xbox vont apporter autant de négatifs à travers ça aussi. Fait que je vous dis, on ne le sait pas tout. Fait que je me garde une gêne, je trouve ça super poche pour les pertes d'emploi. Assurément qu'il y a plein de gens là-dedans qui vont être repositionnés. Les gens qui ne veulent pas suivre ou qui ne suivront pas ou qui n'ont pas eu d'offre pour y aller, s'ils sont pleins de talent, vont retrouver quelque chose assez rapidement. Mais c'est sûr que l'industrie du jeu vidéo est plus ce qu'elle était, entre guillemets, quand on pense, mettons, tu sais qu'avant, quand on était plus jeune, là, si je pense à moi, le vieux bat de 48 ans, là, quand j'étais jeune, je me disais, ça doit être malade, travailler pour un studio de jeux vidéo, tu fais des jeux vidéo, tu sais, ta job, c'est faire des jeux vidéo, ça doit être malade, hey, je fais le premier tableau, je fais le deuxième tableau, on va faire un boss site, tu sais, dans ta tête, t'imagines ça, movie maker, pas un vidéo game, machin truc, là, tu sais, super facile à faire, mais ça marche pas de même. Toi, tu t'occupes de faire des bonhommes, toi, tu t'occupes de faire des armes, toi, tu t'occupes de faire des décors, toi, tu t'occupes de faire le whatever, tu sais. C'est pas de même que ça marche, mais bref, l'image qu'on avait quand même, c'est que de se dire, dans l'industrie du jeu vidéo, t'as de la job de même, puis ça doit être un métier de rêve, puis tout. Puis là, quand on voit sortir un peu les choses-là, il y a comme une saturation, peut-être, un trop plein de jeux, je sais pas. Tout le monde voulait faire plein de jeux. Tu sais, regardez juste ce qui sort à chaque semaine, tout le temps. Le paquet de jeux qui sort. À un moment donné, il y a un petit frein à faire de dire, on a fait bien du cash, on a vendu bien des jeux, mais à un moment donné, là, je pense qu'il faut prendre nos billes, il faut consolider, puis voir un peu, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Mighty Doom, ça vaut la peine de mettre... Je ne sais pas combien d'argent qu'ils mettaient là-dedans sur ce jeu-là avec Roundhouse Games. Ça vaut aussi la peine de mettre bien du cash là. Je pense qu'on peut restructurer puis qu'on voyait sur le communiqué officiel de un peu maladroit quand même, on va se le dire, là, de Microsoft qui avait fait en disant, bon, tu sais, des réponses un peu froides, là, ben on les remercie pour le bon service, mais bonne chance à eux quasiment, ils seront replacés, nanana. Mais encore une fois, c'est le communiqué de presse qu'on envoie... pour lire comme ça, mais il y a des choses qu'on ne sait pas non plus. Bref, tout ça pour dire de façon un peu maladroite que, tu sais, petite ou grosse entreprise, à un moment donné, t'as, l'objectif d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Tu sais, par des bonnes idées, par un... j'ai fait un beau dessin, check ça, tu vas-tu vraiment nourrir ta famille avec ça? Je comprends, mener une entreprise, il faut qu'elle fasse du cash, malheureusement. Je te dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Pas malheureusement, mais c'est de même, ça marche. Fait que, les fermes, c'est sûr qu'on la comprend pas. Tu sais, pourquoi tu vas aller fermer Tango Gameworks quand tu fais un jeu qui... Hi-Fi Rush, qui était acclamé par la critique, acclamé par les joueurs, que les gens ont adoré, que moi-même, j'ai trouvé super bon. Il faudrait que j'y retourne d'ailleurs pour le finir. Puis qu'après ça, tu apprends que ça ferme. Je la comprends pas. Tu sais, il y a une raison d'être de ça, d'investisseur, je comprends. Mais est-ce que tu vas dire, mettons, OK, ben parce que je fais 20 milliards par trimestre, ben je me dois de payer le développeur ou le studio parce que j'ai plein d'argent, puis ils ont des bonnes idées, moi les payer pareil pour qu'ils fassent absolument quelque chose, parce que, tu sais, oui, tu pourrais dire, je vais faire ça pour les garder en mon sein, pour que, mec, j'ai besoin de ces gens talentueux-là, je pourrais les replacer ailleurs dans mon équipe, au lieu de simplement fermer le studio. Mais encore une fois, comme je disais tantôt, ils ferment, il y a des gens qui vont être rapatriés quand même. Malheureusement, oui, il y a des collègues qui vont, en guillemets, disparaître, puis vont aller ailleurs ou s'en aller, ou juste pas se faire proposer autre chose, mais quand même. Je dis juste, dans le fond, là, résumer tout ça, là, de prendre un pas de recul, de regarder ce qui se passe, puis de laisser faire un peu les gens qui dirigent cette entreprise-là, le Microsoft, Xbox, puis ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Souhaitons-nous, comme joueurs, que des grands jeux qu'on a super hâte de voir vont continuer. Souhaitons que la marque Xbox va continuer quand même. Je trouvais ça plate qu'on dise, bon, mais maintenant c'est Game Pass, il n'y a plus de console, tu as une offre, c'est Sony ou c'est Nintendo, puis Xbox n'existe plus. Tu sais, on ne veut pas aller dans l'extrême non plus, là. Fait qu'on va les laisser faire le truc. Nous, comme petit peuple, comme gens qui regardent ça aller, ben oui, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est vrai, chialer, oui, en effet. Mais on peut commenter, on peut envoyer des messages de gros love aux éditeurs, aux développeurs en disant, on trouve ça plate pour vous autres, on compatit, on vous envoie de l'énergie positive, puis on espère que vous allez vous replacer dans autre chose. Puis c'est ça. Fait que, bref. C'est ça, toute cette histoire-là est venue très, très grosse hier. Je trouve ça bien plate pour les studios. Je trouve ça plate pour la suite des choses pour Xbox. Je ne sais pas comment ça va virer, mais clairement, je pense qu'en février, janvier-février, quand il y avait les ventes de consoles qui n'étaient pas au rendez-vous, les mises à pied, les exclusivités qui ne sortent pas, les délais tout le temps en pensant tout le temps que la prochaine année va être vraiment hot, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Il y a une ou deux exclus, c'est tout. Il y avait déjà des décisions qui étaient en cours là, mais pour moi, qui ont juste repoussé à plus tard en se disant, bah, on fait du déni, on essaie de relancer un peu, craquer les gens qui ont de l'argent, les investisseurs, puis espérer que ça avance un peu finalement. Ben, regarde, 3 mois plus tard, on a pris les décisions qu'on devait peut-être prendre à ce moment-là, puis on verra bien justement si finalement, comme je disais tantôt, les Indiana Jones de ce monde, puis les Starfield finiront pas multiconsole aussi finalement, même si on nous a dit non, voilà 3 semaines. Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée à preuve. Hein? On a acheté des studios, puis on les a fermés. Fait que c'est ça. Prochain sujet. Je le répète, mais si vous voulez encore plus d'infos, plus précises, sur tout ce qui est arrivé, les annonces aussi en lien avec Xbox, Microsoft, puis les jeux, les studios, je vous invite comme toujours à suivre notre Facebook, Salon Gaming, le Salon Gaming de M. Smith sur Facebook. C'est la place pour suivre l'actualité de jeux vidéo au quotidien, c'est-à-dire à tous les jours. Plus positif maintenant, du côté de Nintendo. Parce que oui, Nintendo, hein, rappelez-vous les rumeurs, il y a quelques années, quand il disait que Microsoft pensait peut-être acheter Nintendo, là. Les rumeurs, c'était-tu vrai, c'était-tu pas vrai, je ne sais pas. Je peux dire que Nintendo, aujourd'hui, ils ont bien du fun et ils trouvent ça bien drôle de regarder ça. Les autres, ça va bien. Bon, on a appris enfin officiellement par la direction chez Nintendo que la Switch, on aura une annonce d'ici la fin de l'année fiscale, donc d'ici 31 mars 2025, mais pas pour tout de suite. Il y aurait une conférence, une présentation en juin prochain avec des nouveaux jeux. des jeux annoncés, des jeux en développement, des jeux qu'on savait déjà, des affaires de même, mais pas d'affaires de console. Là. Mais on devrait enfin, finalement, le savoir, la prochaine console, la nouvelle Switch, la Nintendo, je sais pas quoi, d'ici mars 2025. Votre feeling, c'est quoi? Les Game Awards en décembre, peut-être? Oui, peut-être, je sais pas. Une annonce, pas à conférence-là, mais à nous arriver genre au mois d'août, septembre. Mois d'août? En plein été au mois de juillet? Ouais, peut-être aussi. Voici la nouvelle console? Je sais pas. Je sais pas. C'est sûr qu'on fera, on pourra en discuter, la gang du Sound Gaming de M. Smith, là, en gang, voir un peu ce que ça donnera. On vous fera nos prédictions aussi par rapport à ça, assurément. Mais c'est sûr que j'ai hâte de voir. Est-ce que Nintendo va y retourner avec une console hybride, encore une fois? Ça, je ne sais pas pantoute. Vous le savez autant que moi. Tu sais, je voyais les gens qui disaient un peu, là, un peu sur, je voyais sur le Facebook de Sound Gaming de M. Smith, justement. Les gens, ils demandaient, s'il est encore hybride, justement, est-ce qu'on veut encore une meilleure autonomie? Oui, c'est quelque chose qui était soulevé. Plus de puissance, une batterie amovible. Il y a quelqu'un qui parlait de ça. La possibilité de mettre des applications dessus, des applications de télé, là, genre Netflix, Disney+, Prime. Faut qu'elle soit rétro-compatible avec la première Switch. Oui, cela va de soi, tant qu'à moi. Mais plus de performance, des Joy-Con peut-être bien plus fiables aussi, plus résistants. Ce serait pas de mauvaise idée aussi. Tu sais, comme prise en main maintenant, là, j'ai quand même des bonnes mains. Puis j'aime mieux la prise en main de la Steam Deck. Quand je prends ma Switch dans mes mains pour jouer à ça, je la sens toute petite puis plate. Plate dans le sens de plat, là, tu sais, plat, là, pas épaisse. Là. Fait que je la sens mince, très mince dans mes mains. T'sais. Fait que j'aime mieux la prise en main maintenant de la Steam Deck. Fait que je n'haïrais pas ça que la Switch soit un peu plus épaisse s'ils en font une nouvelle. Mais est-ce qu'ils vont revenir avec ce concept-là du dock de TV avec ta console que tu mets dedans? C'était une idée géniale, on va se le dire. T'sais, ils ont vendu, là, on est rendu à quoi? À peu près un peu plus de 141 millions de consoles vendues. Sont les chiffres que j'ai vus passer, puis que vous avez vu sur le Facebook du salon. La PS2, c'était 160 millions de consoles. Fait qu'imaginez, là, 141 millions de consoles vendues pour la Switch. Fait que possiblement que d'ici, mettons, le lancement de la nouvelle console, mettons qu'elle sortira en novembre 2024 ou en février 2020, mais non, elle va être annoncée d'ici là, fait qu'elle va être sortie après. Fait qu'il y a des. Ben, moi, tant qu'à moi, c'est certain qu'elle va battre la PS2. C'est déjà 141 millions, ça veut dire qu'il manque juste 19 millions pour péter l'autre. Puis, dans le dernier trimestre, il s'est vendu 13 millions et demi Nintendo Switch. Fait que ça devrait être capable de. Ils vont le battre. Moi, je suis convaincu qu'ils vont dépasser les ventes de la PS2. Fait que c'est fou. C'est fou, fou, fou. Ça va prendre encore d'autres exclus, tant qu'à moi, pour vendre encore d'autres consoles. Parce que là, à un moment donné, tous ceux-là qui voulaient en avoir une, ils en ont une console, tant qu'à moi. Mais de toute évidence, pas tant ça. Il y en a encore 13 millions qui se sont vendus. Tu sais, je regardais même les ventes de jeux. Là, j'avais sorti ceux qui s'étaient sortis entre avril 2023 et mars 2024. Zelda Tears of the Kingdom, tu avais plus de 20 millions de copies vendues. Mario Wonder, plus de 13 millions. Mario Kart 8 Deluxe, ben oui, encore. 8 millions de jeux vendus. Nintendo Switch Port, 3,5 millions de copies vendues. Pikmin 4. 3,5 millions de copies vendues, puis ça continue de même. Fait qu'il se vend du jeu à côté encore, quand même. La Switch, elle va vraiment bien. Fait que oui, convaincu qu'elle va péter le 160 millions de la PS2, pas mal certain. Il reste à voir après ça, justement. Si la prochaine console sera hybride ou seulement salon. Tu sais, en ayant ma Steam Deck, je ressens moins le besoin d'avoir une console absolument portable. Est-ce que je serais capable de faire le saut? Est-ce que Nintendo pourrait aller revenir en arrière avec une console uniquement salon? Oui. Oui, ils pourraient, mais tu sais, s'ils font ça, s'ils font une console de salon, ils ont, entre guillemets, pas le choix d'en revenir avec une nouvelle 3DS? Tu sais, parce qu'il y a plein de joueurs qui jouent juste portable. Là. Fait que si tu veux jouer encore des produits Nintendo, ça te prend une console portable. Qui vont être oubliés de recommencer à couper le studio en deux, leurs équipes en deux pour être capable d'avoir une équipe qui fait du portable, une équipe qui fait du salon. Nah. Je pense qu'on va revenir encore avec une console hybride. Hybride. Mais en même temps, le gros problème, là, ça, c'est la puissance puis l'autonomie. Puis on demande un meilleur écran. Tu sais, l'écran OLED qui est vraiment hot. Meilleure autonomie de pile, au lieu d'avoir un toit à 5 heures, 4 heures et demie, 4 heures, 3 heures et demie de pile, dépendamment du jeu. Tu veux-tu avoir une batterie de Switch qui peut faire 5 heures? Ouais. T'imagines-tu le prix de la console? Ça va monter. L'écran, c'est un écran 4K. Mettons que tu as un écran 4K, la console est plus puissante, puis ta pile peut faire 8 heures. Un, la console, elle va être un peu plus lourde, c'est certain. Mais elle va être chère. C'est-tu qu'elle va coûter cher, cette console-là, imagines-tu? Puis si on veut qu'elle garde avec un prix qui arrête de l'allure, mettons qu'on dit, OK, j'ai un écran 4K, j'ai une autonomie de pile qui fait du 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures, puis j'ai une console plus puissante qui peut jouer les jeux qui sortent PS5, Xbox Series sur une Switch 2, mettons. La console va coûter super cher. Fait que si tu veux la vendre pas cher, faut que tu mettes moins d'argent dans les Joy-Con pour qu'ils soient un peu, entre guillemets, plus cheapo pour économiser. Soit tu économises sur le plastique, sur d'autres matières premières. Tu sais, c'est bien beau de dire, moi, je veux plus d'autonomie. Mais si tu as un gain là, faut peut-être que tu en enlèves ailleurs pour réussir à rester, mettons, sous la barre psychologique des 500$. Tu peux-tu vendre une Switch 2, 4K, batterie de 8, 9 heures, 10 heures, roule plus puissante, toute, à 800$? T'en vendras pas 141 millions de copies tant qu'à moi si tu vends ta Switch 2 800$. Fait que si tu veux avoir une Switch plus puissante, plus haute, plus ci, plus ça, plus ça, plus ça, à 499, 399$, bonne chance. Fait que je sais pas. C'est pas pour rien là qu'on va arriver avec une annonce de Switch 9 ans après la première pour la nouvelle console, tu sais, mettons. C'est pas surprenant. Il va avoir eu tellement... Ben 9 ans, je dis 9 ans. 8 ans après, mettons, 2017 à 2025, faites le calcul. Fait que 8 ans. Tu sais, c'est normal. Ils doivent tellement se casser la tête dans un labo, puis dans les trucs pour tester la machine, pour essayer d'inventer quelque chose qui va faire que ça va fonctionner, que ça va pas trop chauffer non plus, parce que ça aussi, l'autonomie, c'est le plus gros combat. Tu sais, pour les téléphones, pour tout ce qui est à batterie, là, l'autonomie, c'est le facteur. Ben, les voitures, tu sais. L'autonomie, c'est ce qui est le plus important. C'est un combat incroyable. Lui qui va inventer une batterie qui peut t'offrir des milliers d'heures, des dizaines d'heures, va être riche, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a une usine à batterie là, qui va se construire, là, mais ça ne sera pas des batteries de Switch. Là. Fait que le combat, il est là. Fait que, tu sais, j'ai aucune idée comment ça va virer. Mais marketingment parlant, tu ne peux pas vendre ta console, tant qu'à moi, hybride, qui est, entre guillemets, enfant, adulte, mais famille. Nintendo a toujours l'étiquette famille, pareil, dessus. Mais la vendre à 800-900$, tu sais, à moins. Puis pourquoi tu ferais, mettons, deux gammes? Tu sais, mettons, tu dis, OK, on fait une Switch 2. On l'appelle de même, parce qu'on n'a pas de nom. On fait une Switch 2 à 500$, qui est, elle vient avec, mettons, un nouvel écran 4K, il y a la mémoire aussi. Ça vient avec une carte, un disque dur de 500 MB. Tu sais, veux dire, un SSD. Ça prend un SSD 1 Tera, mettons, mais ils ne feront pas ça. Mettons que ça serait une 500. 500 gigs, ça aussi, ça coûte cher. Tu peux pas avoir une version non plus. Tu sais, comme la. Ils peuvent-tu faire, mettons, comme avec la Steam Deck, puis faire une Switch, trois modèles de Switch ou deux modèles de Switch, puis tu peux avoir la version Switch Pro, la Switch 2 Pro. À 800$, qu'elle, elle a, mettons, justement, 500 gigs ou 1 Tera, l'écran 4K, pour le joueur, entre guillemets, adulte ou adolescent qui veut la performance, qui veut jouer tous ses gros jeux dessus, celle-là coûte 800 coq. Mais tu as la version Switch 2 normale à 500. Donc, pratiquement le prix de la console Switch normale quand elle a été lancée. C'était quoi, 400 coq quand elle a été lancée? Je ne me rappelle plus du prix. Jérôme, tu vas me le dire. Mais que cela l'aurait, en plus de l'actuel, mettons, elle aurait l'écran 4K, plus de mémoire, puis c'est tout. Un nouveau look. Pour 500$, ça vaut-tu la peine? Tant qu'à ça, garde ta Switch actuelle ou ta Switch OLED. Fait que je sais pas. Tu sais, pensez-y, là, pensez à tout ce que je vous dis là. Il y a de quoi brainstormer, pas réfléchir. Fait que c'est ça, les génies chez Nintendo qui réfléchissent à tout ça. Faut qu'ils se cassent la tête pas mal plus que moi là-dessus, puis voir qu'est-ce qu'on fait. Ça va être très, très intéressant à suivre. Qu'est-ce qu'on aura comme annonce là-dessus, c'est certain. Ouais. Fait que c'est ça, mes amis. Prochain sujet. Puis cette toune-là, t'as-tu deviné c'était quoi? T'as-tu deviné? Hein? Dis-moi-les. Outre Stellar Blade, que j'ai joué pas mal, hein, qui est un de mes jeux préférés cette année, puis MLB The Show 24, que j'affectionne tout particulièrement, puis plein d'autres jeux. Hein, mais sérieux, ces deux jeux-là, c'est pas mal deux de mes jeux préférés cette année. Assurément que mon préféré en 2024 jusqu'à présent, c'est Helldivers 2, que j'adore. J'ai encore joué des games en fin de semaine avec mon fils qui était mémorable. Je rappelle aux nouveaux auditeurs qu'il ne serait pas mon fils 19 ans, bientôt 20. Fait qu'il est meilleur que moi même. Fait que on fait des sapres games ensemble. Des fois, j'ai le plaisir aussi de jouer évidemment avec mes collaborateurs Sound Gaming de M. Smith. Helldivers, c'est génial. C'est maudit bon jeu. Christique, c'est bon. Je prends tant des captures d'écran. Ils rajoutent du stock dedans tout le temps. Ils viennent modifier, peaufiner, ajouter du stock. Puis là, d'ailleurs, ce qui a fait que le sujet d'aujourd'hui, justement, qui a créé la grogne auprès des joueurs, ça a été cette décision-là, l'espace de quelques temps, que les joueurs PC devaient se lier leur compte Steam avec un compte PlayStation Network. Fait que ça a fait chier bien du monde. T'sais, fait que pour jouer à partir du 6 mai, fait que ça a arrêté depuis deux jours. Il fallait que les joueurs PC, il aurait fallu que les joueurs PC, justement, c'est ça, relient leur compte Steam à un compte PSN, PlayStation. Les joueurs n'ont pas aimé ça. Le jeu est déjà cross-plateforme, fait que tu peux jouer entre joueurs PlayStation et PC ensemble, sans problème, ça fonctionne numéro un. Ça devait être un désir de contrôle, de je ne sais pas trop quoi, par Sony PlayStation. Eux aussi, ça leur arrive des fois de faire de quoi. T'sais. Mais finalement, regarde, ils sont revenus sur leur décision, ça ne s'est pas fait. Mais tu sais, ce que j'ai lu après ça, ce qui s'était passé, c'est que dans le fond, le jeu PC, quand ils ont décidé, OK, maintenant, ça va être ça, Helldivers 2 était plus accessible, il est devenu inaccessible pendant une fin de semaine, la fin de semaine passée, là, si j'ai bien compris, dans 177 pays qui n'offrent pas la possibilité d'ouvrir un compte PSN. Fait que ces joueurs-là, dans ces 177 pays-là, ne pouvaient pas faire un compte PSN pour le relier à leur compte Steam. Fait que ça ne marchait pas, ils ne pouvaient pas jouer à leur jeu. Il y avait un YouTuber, entre autres, XZanny, qui est aux Philippines, que je ne connais pas pantoute, mais qui a quand même 2,3 millions d'abonnés. Il dit qu'il a perdu l'accès à son compte cette fin de semaine-là. Fait qu'il ne veut pas jouer à Helldivers 2. Fait que quand tu as un YouTuber qui a 2,3 millions d'abonnés, ça a un certain poids dans la balance. Fait que lui et bien d'autres joueurs, il était au total à peu près 200 000. Ils sont allés faire du review bombing, des mauvaises évaluations sur Steam pour caler le jeu. Parce que lui, il avait la note, là, l'évaluation globale extrêmement positive. T'sais, il y a tout le temps ça là, sur Steam. Là. Plutôt bonne, plutôt moyenne, décevante. Lui était extrêmement positif. Fait qu'à 200 000 personnes, ils sont allés donner des notes de genre 0, 1, des notes de merde sur le jeu. Fait que ça a fait que toute son évaluation positive a pris une drop. Puis tout s'est mis à aller mal. Puis tu sais, le jeu, il s'est quand même vendu à plus de 8 millions d'exemplaires jusqu'à présent, là, si j'ai bien lu, puis j'ai bien compris là, jusqu'à présent, là, au total tout, là, de Helldivers 2. Fait qu'ils font des ventes, ils font de l'argent. Vu qu'ils font de l'argent, ben, ils peuvent apporter plein de nouveautés dans le jeu, peuvent rajouter plein de stocks dedans parce qu'ils ont du cash pour développer, pour créer du stock. Puis aller chercher des développeurs de talent, qui sait, aller en recruter sur certains qui ont perdu leur travail récemment. Tu sais. Fait que c'est ça. Pour une fois, parce que personnellement, le review bombing, je vous dirais que les trois quarts du temps, je trouve ça cave. Je comprends que c'est une voix, c'est une parole, c'est un chemin que les joueurs peuvent utiliser quand ils sont mécontents pour soulever leur indignation envers un jeu, une compagnie ou quelque chose. Bien souvent aussi, tu vas voir des fois du review bombing, genre sur Metacritic, puis ils n'ont pas joué une maudite game à ce jeu-là. Puis ils vont juste mettre des notes de merde parce qu'ils n'aiment pas le studio. Tu sais, check bien, là, mais que Hellblade 2 sorte parce que c'est Microsoft, puis c'est Xbox, là, c'est Ninja Theory, mais parce que c'est avec Xbox, nanana. Il y a plein de monde qui vont mettre des notes de merde là-dessus pour caler le jeu parce que ça a rapport avec Xbox. Convaincu. Je te gage un 2$ en papier là-dessus, tu sais. Fait que c'est ça. Je trouve ça une assez d'habitude. Mais là, pour l'occasion, regarde, ça a marché. Puis tu as eu un communiqué après ça de Sony PlayStation qui a dit, regarde, on vous a entendu les joueurs. C'est correct, on revient sur notre décision. Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Hein? Ça doit être la thématique à soir du podcast. Je l'ai dit une couple de fois à soir, qu'on parlait de Microsoft et tout ça, puis de d'autres places. Ils ont dit regarde, c'est correct, on laisse ça comme c'est. Oubliez ça. C'était une mauvaise idée, là. C'était une idée de cave, on oublie ça. Il y a quelqu'un quelque part qui a pensé d'une réunion. Hey, patron, on pourrait peut-être lier PlayStation avec Steam. Il y en a qui a dit hey, oui, c'est une bonne idée, j'adore votre idée, monsieur. Ok, merci, patron. Puis là, ils sont partis avec ça. Puis ils se sont fait ramasser. Fait que, tu sais, regarde, ça s'est pas fait. Fait que good job, ben, tant mieux. Puis vive la paix, vive l'amour. Comme ça, on va pouvoir continuer à détruire des terminides, puis des métatrons, en tout cas les robots, là. Les terminides, puis les automatons. Je joue en français, ouais. On va pouvoir continuer à faire la guerre, puis avancer pour les humains avec la Super Terre. Quel jeu fantastique, encore une fois. Je suis rendu niveau... j'ai 54 heures de fête dans Helldivers 2. 54 ou 55 heures de fête. Puis je suis niveau 28. Fait que ça monte pas si vite que ça. Rendu à ce niveau-là, ça monte pas très vite. Il y avait un joueur en fin de semaine qui jouait avec nous autres qui était niveau 51. J'ai fait « Wow, man, respect. Il a dû jouer à 120 heures. Ici. » Il était très fort. Mais crime que c'est le fun. C'est un maudit bon jeu. C'est vraiment, vraiment trippant. Meilleur jeu en ligne. Tu sais, là... quand je vous en ai parlé souvent au fil des années, là, ça fait quoi, depuis 2008 que je couvre le jeu vidéo à tous les jours, là, que je l'ai dit souvent. Là. Avant Sound Gaming, c'était ailleurs. Puis j'ai toujours dit la même chose, c'est dur parce que j'ai vu des lancements de jeux, j'ai vu des jeux se planter, puis d'autres réussir. D'avoir un jeu multijoueur qui va fonctionner, que la recette va fonctionner, c'est dur en tabarouette de sortir du lot puis dire « Hey, moi je suis le Dota 2, je suis le Overwatch ». Je suis le Call of Duty, je suis le Rainbow Six Siege. Tu sais, d'avoir un multijoueur, un Grand Theft Auto en ligne. Tu sais, il y a des jeux en ligne de même qui marchent. Puis Helldivers 2, c'est dans ça à cette heure. Tu sais, même Overwatch 2 n'a pas fonctionné, tu sais, versus l'autre. À moins que je me trompe, là, mais à ce que je sache, ça n'a pas fonctionné bien, bien. Fait que, à preuve, j'ai joué quelques games, puis ça m'est tombé des mains. Je fais « Ah, c'est la même affaire ». Tu sais, moi, je voulais Overwatch 2, je voulais une campagne solo. Là, avec, tu sais, je trouvais que les univers puis le monde était tellement cool. Je disais, hey, je vais pouvoir me promener dans cet univers-là, ça va être le fun, puis apprendre ci, apprendre ça. Ben, même en fait. Bref. Fait que c'est ça. Comment je dis ça? Il y a que les fous qui changent pas d'idée. Prochain sujet. À la demande générale, à la demande de Danick Levasseur, salut man, je vais vous parler de Immortals of Avum, qui était gratuit sur le PlayStation Plus. Suffisait d'être abonné PlayStation Plus essentiel, puis tu avais le jeu gratuit. Là, je pense que ça vient de changer, fait qu'il l'a pu, je crois. Sinon, c'est 89,99. Il n'est pas donné, ce jeu-là, quand même. Il me semble que j'ai vu ça à 90$. Fait que c'est ça. J'ai joué à ça. Je suis rendu au chapitre 5. J'ai joué quelques heures. J'ai été surpris. Tu sais, quand Immortals of Avum est sorti l'année passée, le jeu d'Electronic Arts, les critiques ont été... comment je dirais ça, donc? Correct, sans plus. Tu sais, t'avais du « Ah, c'est quand même bon », puis d'autres du « Ouais », puis les ventes n'étaient pas au rendez-vous. C'est sorti, je pense, dans le même bout que Baldur's Gate 3, puis un autre jeu, là, me semble, c'est dans ce coin-là. Fait que les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Il était quand même éclipsé par un gros jeu. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'a pas été chanceux, tu sais. Quand j'avais vu les extraits au début, les premières bandes annonces, t'as l'air d'être un. Ben, c'est ça que t'es. En fin de compte, t'es un magicien avec des pouvoirs vraiment cool, en vue à première personne. C'est des attaques à distance. Je pense que c'est fait par des anciens développeurs de Call of Duty, entre autres. Si je ne m'abuse. Fait que je me disais, ça a l'air cool. Faudrait voir. Les images sont quand même nice. Mais tu sais, j'ai joué à autre chose, puis ça m'est tombé des mains. Puis là, quand Danick est allé parler de ça le samedi dernier, en parlant qu'il n'avait pas entendu de podcast, qu'il avait parlé de Immortals of Avum, j'ai dit, attends un instant, j'en fais le serment, je vais en parler, man. Fait que c'est ça que je fais là. Fait que j'ai lancé le jeu. Au début, tu joues l'intro, qui est quand même assez longue, qui te présente un peu, là, tu sais, t'es jeune avec avec une autre personne, je ne vais pas vous spoiler rien, parce que vous le jouerez, ça vaut la peine, l'histoire est le fun, de ce que j'ai vu à date, en tout cas, l'histoire est le fun à suivre. Tes deux personnages, le tien, il y a des pouvoirs un peu. Tu sais, tu te rends compte, ouais, il y a des pouvoirs, il est jeune, il y a déjà des pouvoirs, ouais, il y a telle affaire dans la nana, OK. Il y a une attaque sur le village, quelqu'un qui disparaît, disons ça comme ça. Les années passent, puis là, tu te rends compte que tu as un pouvoir magique vraiment haute. Mais tu sais, c'est ça. Tu fais l'intro, puis là, tu as une présentation avant que le jeu commence. Tu as peut-être une petite demi-heure à faire à peu près. Puis là, tu as la présentation du jeu, mais tu sais, là, comme dans un film, là, très cinématographique, là, avec le titre du jeu, puis là, genre les développeurs, puis là, la musique, là, puis là, avec les noms au ralenti en 3D, puis les bonhommes musclés qui font des poses de chess avec leurs épées, puis nan, ça flashait au bout. Tu fais comme, wow, la musique est malade, puis pour vrai, c'était vraiment hot. La musique d'intro, je trouvais vraiment hot. Fait que là, le jeu, il part, puis les cinématiques sont très, très belles aussi. Le jeu est super beau. Et comme je disais, je l'ai vu PlayStation Plus Essentiel, gratuit. Donc, je joue sur PS5, vous l'aurez compris. Le jeu est magnifique. Il est vraiment super beau. J'ai trouvé le jeu très, très beau. On me demandait sur Twitter en fin de semaine, sur X, pardonnez-moi, il y a 2 jours, à quoi tu pourrais comparer ça. C'est dur. Parce que, à date, après ces 4 chapitres-là, c'est des attaques à distance. Je ne sais pas si à un moment donné, tu viens que tu fasses quelqu'un avec un bâton. Mais c'est des. Oui, tu peux, avec le stick droit, tu vas donner un coup de poing d'en face. Tu sais, quand quelqu'un est trop proche de toi ou tu n'as plus de balle, là, tu lui sens un coup de poing d'en face, comme dans Call of Duty, mettons. Là, même affaire. Puis avec la gâchette gauche, L2, tu as un genre de fouet d'énergie, que tu vas aller attraper quelqu'un au loin avec ton fouet. Tu vas le rapprocher de toi, puis tu vas lui sacrer un coup de poing ou tu vas l'attaquer avec une de tes attaques de magie. Là, tu sais. Là pour l'instant, j'ai. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs. J'ai un bracelet magique sur ton bras. Un bracelet magique, oh ouais! Rouge, vert, puis bleu. Le premier, c'est le bleu que t'as. Pour ça, t'as le rouge de mémoire. Pour ça, j'ai eu le vert. Puis c'est ça. Fait que là, mettons, le bleu tire un tir unique. Le vert est une genre de mitraillette. Puis le rouge serait comme un genre de shotgun. Je le vois un peu comme ça, mais c'est un faisceau lumineux, n'est-ce pas, que tu vas lancer. Puis à un moment donné, tu te débloques en maintenant le bouton R1, puis... carré, un genre de tremblement, tu sais, un genre de Hulk smash. Là, la terre avait comme tremblé, ça va péter la défensive d'un autre joueur. R1 puis X va faire une genre d'attaque de puissance en avant des autres. Là, ça va les fesser, tu vas en tuer genre 10 d'une shot. C'est super stylé. Puis ton concept de couleur de tes armes va faire que tu vas attaquer des ennemis verts avec telle couleur, des ennemis rouges avec ton attaque de telle couleur, le bleu, etc. Fait que tu joues avec ça. C'est sûr qu'il faut que tu payes sur triangle pour changer de couleur de bracelet à chaque fois selon l'ennemi. C'est pas toujours évident. Fait que bien souvent, je me faisais comme « Ah, fuck off ». Moi, il tirait avec la même couleur. Mais quand même, tu as aussi à un moment donné avec, avec ta croix directionnelle, comme par en haut, mettons, tu sélectionnes le fouet. À droite, tu vas sélectionner, mettons, de reprendre une vie. Puis par en bas, ça va être... puis j'ai pas débloqué le côté gauche encore, mais par en bas, ça va être des genres de... truc vert de glu là, pour ralentir un objet en mouvement ou ralentir un ennemi. Fait que tu sais, il y a beaucoup de contrôle à apprendre, à mémoriser. Fait que si tu joues à Immortals of Avern puis à autre chose en même temps qui est un autre nouveau jeu que tu joues, mettons, tu vas être mêlé en tas d'un contrôle, ça c'est certain. Parce que je pense que quand tu joues à Immortals of Avern, il faut que tu joues juste à ça parce que c'est ça, il y a beaucoup de contrôle à apprendre puis de façon de jouer à apprendre. Mais ça se fait quand même bien. C'est moins compliqué, mettons, que Forsaken quand j'avais joué la démo. Là, je trouvais que Forsaken, je me perdais dans le contrôle. On n'est quand même pas là, là. Mais il y a du contrôle à apprendre quand même. Mais c'est ça. Le jeu est trippant. Puis quand on me demandait justement, comme je disais tantôt, à quoi ça ressemblait, c'est dur à dire. C'est comme un genre de mélange de Call of Duty, Dishonored, Bioshock, malgré que tu n'es pas dans l'univers... T'es pas dans un univers pas cyberpunk, mais avec de la vapeur, là. Je cherche le titre, là, le mot, là, en tout cas, avec de la vapeur, là, punk, là, affaire là. T'es plus dans le c'est ça, t'es un genre de Skyrim, mais rapide. T'sais, un genre de Skyrim fast FPS, parce que c'est quand même très rapide, le jeu va vraiment vite. Fait que tu bouges tout le temps, t'es tout le temps en déplacement, paf, paf, t'attaques. Il y a un combat contre un dragon à la fin du chapitre 3, de mémoire, qui était vraiment épique. Puis je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai survécu. J'ai fait, wow, il y a des niveaux de difficulté que tu peux choisir. Fait que ça, c'est quand même le fun. Mais c'était hot. Il y a plein de caisses à ouvrir partout. Fait que tu as tout le temps de la vie à quelque part de cacher, quelque part pour te healer. Il y a des munitions à un moment donné. Pas des munitions, mais des cristaux à mettre dans ton bracelet. Il y en a tout le temps quelque part de cacher. Fait que tu veux explorer l'environnement qui est quand même très grand. tu sais, jusqu'à maintenant, c'est un genre de semi-monde ouvert. Est-ce que ça devient un vrai monde ouvert à un moment donné? Je ne sais pas. Là, on est plus dans un concept de corridor. Là, tu sais, j'ai marché d'une rue, là, je rencontre des bébites qui apparaissent, des bonhommes. Là, j'y tue, puis je continue à avancer. Là, je peux aller en haut, en bas ou en bas, ou en haut à gauche ou à droite. Puis je sens que la zone est un peu plus grande. Fait que là, je peux explorer puis fouiller un peu des objets ou des coffres qui sont cachés en appuyant sur carré. Je ramasse de l'or. Je vais à la forge améliorer mes armes. Tu as un arbre de compétences aussi selon tes couleurs pour les améliorer. Fait qu'il y a de quoi passer des heures et des heures, puis bien du temps dans ce jeu-là. Je sais pas, j'ai aucune idée combien de temps que ça prend pour le faire. J'ai le feeling qu'il n'est pas si long que ça comme jeu. Je sais pas. Faudrait checker sur le How Long to Beat là, sur Google. Mais je l'ai fait au complet si je l'ai fait au complet. Mais à date, pour vrai, c'est vraiment le fun. Je pensais pas qu'il serait aussi trippant que ça. Est-ce que j'aurais payé 90$ pour. Telle est la question, je sais pas. Je pense pas. Mais je pense que si tu vois le jeu passer à 50$, ça vaut à peine en maudit. Je sais pas comment qu'il... Si là, vu qu'il n'y a plus PlayStation Plus, puis si vous le voyez, mettons, ah, sur Xbox, ça serait le fun de le jouer, mettons. Mais 50-60$, je pense que ça vaut à peine. Pour vrai, j'ai vraiment du fun. Je verrai après le chapitre... mais tu sais, mais j'ai, mettons, fini le chapitre 5, puis après ça, j'attaque la suite. Non. Je verrai, mais l'histoire est quand même le fun. Le fun à suivre. Il y a beaucoup d'idées originales à travers ça quand même. Le gameplay marche bien. Au début, j'avais un peu de misère à viser, tu sais, avec mon stick. J'avais beau jouer avec la sensibilité, puis j'avais un peu de misère. Mais à longue de jouer, c'était correct, j'étais rendu bon. T'as un double saut, puis t'as un dash, fait que tu peux faire des super sauts de bonne distance pour aller au-dessus d'un ravin, mettons, on a fait le même, en essayant d'explorer un peu plus. Mais non, c'est ça. C'est un bon jeu avec beaucoup de contenu, de quoi passer bien du temps dedans pour s'amuser. Je te remercie, Danick, d'avoir insisté, puis de m'avoir parlé, parce que ça m'a donné le goût de le faire. Puis pour vrai, je vais continuer. Je pense que je vais me clencher au complet. Si je l'ai fini au complet, en tout cas, je vous le dirai. Mais belle surprise, pour vrai. Je pensais pas que j'aurais autant de fun que ça avec Immortals of Avum. Allez jouer à ça. Puis c'est ça. Maudit bon jeu, pour vrai. C'était hot qu'il l'ait sur le PlayStation Plus, finalement, ce jeu-là. Fait que si vous l'avez pas fait, foncez là-dessus, pour vrai. Une petite pépite, quand même. Fait que c'est ça. Sinon, ben oui, Hades 2, que j'ai commencé. Ça, c'est de la faute à Jack. C'était pas prévu. J'étais au Costco. Costco, c'est un genre de gros magasin, une grosse épicerie ou un gros marchand, n'est-ce pas, pour nos auditeurs belges ou français, européens. C'est un marchand, n'est-ce pas, un marché immense, très, très grand, où est-ce que tu peux acheter de la nourriture, des nouvelles lunettes, une télé, un pneu, une crème pour le visage. Tu peux tout faire là-dedans. Il y a tout là-dedans, dans ce magasin-là. Puis, à un moment donné, j'étais en deux rangées, puis en train de discuter avec ma conjointe. Puis, à un moment donné, Jack, il dit « Hades 2 est disponible sur Steam en accès anticipé, en Early Access. » Puis, c'est Steam, puis je pense que c'est Epic Games aussi. J'ai fait « Oh, oh, oh! » Je savais qu'il roulait le 1 super bien sur Steam Deck. J'ai dit « Je vais checker, voir sur Steam si le 2 il est déjà approuvé par hasard par Valve. » Ben oui, toi chose, 100% approuvé, validé par Valve, avec le petit logo vert. 45$, je pense, avec les taxes. C'était 39,99$, me semble. Je l'ai acheté sans réfléchir. En deux rangées au magasin, au Costco. Toc, rendu à la maison, j'ai téléchargé, j'ai joué à ça. J'ai déjà à peu près 5 heures de fête dedans. C'est vraiment le fun. J'ai l'impression, puis Jack aussi avait ce feeling-là, parce qu'il l'a acheté aussi, que c'est plus rapide que le premier. Sur Steam Deck, c'est jouissif à jouer, je trouve, dans... Tu sais, puis c'est assez gros pour être capable de lire. Tu sais, une fois, la Steam Deck, on ne sait pas trop par rapport à l'écriture, mais quand il est 100% validé par Valve, ça veut dire qu'on est capable de lire les textes, là. Fait que les boutons sont configurés déjà. À un moment donné, tu sais, c'est un accès anticipé, là. Fait que des fois, quand il y avait un héros qui venait me parler, mettons Aphrodite ou Zeus ou whatever, tu sais, quand l'image apparaît, puis il t'en apprend un peu sur l'histoire, sur la progression pour ton personnage, puis tout, pour ton héroïne, tu sais, elle est rendue où, qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, c'était écrit en anglais. Oh! Puis après, ce coup d'après, t'es écrit en français normalement comme le reste du jeu. C'était un bug, tu sais. À un moment donné, que j'allais améliorer une arme, améliorer un gadget, tu peux avoir des tu sais, mettons, une pelle, un pic, un genre de livre magique, tu sais, qui sont une arme, pas une arme secondaire, mais un gadget secondaire qui permet de ramasser des éléments quand tu fais tes missions, quand tu fais une game, mettons, quand tu fais un run, parce que c'est un roguelite, rappelons-le, tu meurs à chaque fois, puis t'espères d'aller plus loin à chaque fois. Puis... Fait que ça, tu vas en débloquer. Puis quand j'allais pour aller choisir quelle affaire débloquer ou quelle affaire m'équiper, quand j'essayais de tasser mon stick, là, dans le jeu, ça me montrait des flèches d'un ordinateur avec, mettons, appui sur Q ou sur Z, comme si j'étais d'un ordi. Fait que là, en taponnant avec mes pitons sur ma manette, sur ma Steam Deck, oups, ça a marché, j'ai réussi à les sélectionner. Puis le coup d'après, quand je suis retourné, là, j'avais les vrais sticks qui étaient affichés à l'écran. Tu sais, genre, appuyer sur LB, R, LT, 9 à la main, tu sais. Fait que là, ça marchait. Fait que c'est ça, là, c'est un accès anticipé. Le jeu n'est pas terminé à 100%. Puis même ce qu'il disait, quand tu achètes le jeu, en bas à droite de l'écran, c'est marqué genre prochainement, 9 à la main. Fait que dans ça, tu as la road, tu sais, la route du développement, tu sais, ce qui s'en vient. Puis là-dedans, tu peux lire justement qu'il y a plein de mises à jour qui vont paraître au fil des semaines, des mois. T'sais, on est en version 0.9, je pense. 0.9 avec plein d'autres chiffres à côté. Mais ils disent que la version 1.0, ils s'attendent à ne pas le lancer encore avant, genre début 2025. Là. Fait qu'on va rouler demain pendant 6-7 mois facile d'accès anticipé avec une version pas finalisée, mais qui va s'améliorer avec des armes de plus, des personnages de plus, une nouvelle zone à explorer, ça fait le même. Fait que c'est ça. Sinon, pour le jeu comme tel, ben c'est ça. Ben, c'est rapide, c'est beau. Je trouve tellement que les environnements sont beaux, les animations sont cool. Il y a des bonhommes qui me font chier, là, les espèces d'hurleuses, les gens de sorcières qui crient. Là. Tabarouette. Tant qu'elle n'a pas crié, c'est correct. Aussitôt qu'elle se met à crier, il y a un genre de cône, de ligne rouge là, qui pointe vers toi. Wouah! Puis elle fonce vers toi en criant. Ça fait vraiment chier, ça. Je déteste. J'espère qu'elle va avancer moins vite. Ça, ce serait pas pire. Ça. Ils pourraient faire ça dans les améliorations. Là. Quand ils sont jaunes, en plus, ils sont protégés. Ça ne leur fait pas de dommage. Quand tu réussis à péter le jaune, puis que là, sa vie devient rouge, là, tu peux y faire du dommage. Puis si tu n'as pas réussi à la tuer assez vite, puis à réussir à faire son « puis à te hurler dessus, à te fonce dedans, puis ton image vient comme brouillée, blanche, là, puis là, tu perds de la vie. Ça fait vraiment chier. Mais tu peux faire des dommages collatéraux, ça, c'est cool. Il y a des arbres. Tu fesses sur un arbre. Si l'arbre explose ou tombe vis-à-vis un ennemi, tu peux en tuer deux, trois d'une shot. Comme si tu l'avais blessé avec l'environnement. Là, fait que ça, c'est vraiment cool. Les combats de boss que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant étaient vraiment le fun. Ils se font bien. J'ai un boss un peu plus important qu'un autre là, présentement là, qui me donne du fil à retourne, que j'ai recommencé 10 fois, celle-là. À chaque fois, je m'avance un peu plus. Mais la beauté dans le premier Hades, puis qui est encore le cas dans lui, c'est que par l'histoire, quand tu reviens dans ton hub central, là, il dit « Ouais, c'était pas facile tantôt, hein, mais tu l'avais presque. » maintenant, je pense que tu peux te débloquer telle affaire. Fait que le côté roguelite, c'est que ton personnage s'améliore tout le temps de plus en plus à longueur de jouer. Fait que théoriquement, tu devrais te rendre un peu plus loin chaque fois, mais ça dépend en même temps quelle arme que tu vas rencontrer, quelle amélioration tu vas croiser sur ta route. À chaque fois que tu arrives dans une zone, tu tues, mettons, les 6 bibites, les 6 ennemis qu'il y avait là-dedans. Là, tu as 2 portes qui s'ouvrent à toi. Tu peux prendre la porte avec le petit dessin, la cendre, un petit logo de cendre, ou l'autre avec un logo de pétales de fleurs mauves, mettons. OK, je vais prendre la porte avec les pétales de fleurs mauves. Tu tues toutes les bébites, tu ramasses après ça 5 pétales de fleurs mauves. Tu arrives à la prochaine sortie, qui est genre 2 fois 2-3 grandeurs d'écran, mettons, de ta console ou de ta télé. Là, tu as 2 choix de porte. Une avec une goutte jaune, puis une avec une, je sais pas moi, un cœur. On va prendre la porte avec le cœur. Tu tues toutes les bébites, tu ramasses le cœur. Oups, ta vie maintenant, au lieu d'être de 70, mettons, ou de 50, elle va être maintenant de 60. Cool. C'est un choix que tu as fait selon le chemin que tu as pris. Puis là, tu avances tout le temps comme ça, en espérant débloquer des affaires de plus, puis monter, améliorer ton personnage, en fond. Fait que c'est toujours ça le jeu, tu sais. Fait que tu meurs, tu recommences, jusqu'à temps que tu aies une bonne run. Fait que c'est un peu comme Dead Cells, un peu le même principe aussi, sauf que Dead Cells était de côté. Là, Hades est en vue isométrique. Mais c'est vraiment le fun. Je trouve que sur Steam Deck, c'est parfait. Genre de jeu de même, un vue isométrique sur Steam Deck, déjà en partant, c'est super. T'sais, fait que là, moi, j'ai comme le privilège ou la chance de jouer une version comme si je jouais sur une console de jeu à DICE déjà, parce que je suis sur Steam Deck. Quand je vous disais que cette console-là, t'es malade. Fait que c'est ça. C'est le fun à jouer. On verra bien au fil des semaines, des mois. J'espère l'aimer tout autant, puis que ce soit mon jeu que je traîne tout le temps de même, puis que je continue à jouer, tout le temps, puis le voir évoluer à travers les mois. Puis j'en glisserai un mot de temps en temps, là, sans vous péter les oreilles avec ça. Là. Mais une fois de temps en temps, je pourrai vous en parler. Puis tu sais, Jack pourra vous en parler au podcast aussi, la prochaine fois qu'il passera, probablement au podcast 111, là, pour vous dire un peu lui-même qu'est-ce qu'il en a pensé jusqu'à présent. Puis moi, je pourrais vous en dire aussi dans 2 semaines comment ça a été mon évolution avec tout ça. Mais c'est vraiment le fun, pour vrai. Pour un jeu en accès anticipé qui ait déjà autant de contenu, que tu aies déjà un sentiment d'avoir déjà un. Il y a des jeux plus buggés que ça qui sont lancés là, en V1, mettons, là, qui sont plus buggés que ça qui est en accès anticipé. Fait que, tu sais, rien que pour dire comment que le premier était bon, tu dis que. Puis on parlait tantôt encore une fois, quand tu as des développeurs de talent, ben c'est ça que ça donne. Fait que c'est ça. Allez jouer à Hades 2. Si vous avez un PC ou une Steam Deck, ça vaut vraiment la peine. C'est ça. T'sais, quand je parlais de bons jeux à traîner là-dessus, là, Mini Shoot Adventure, là, que j'ai bien trippé, là, genre de Twin Stick Shooter sur Steam Deck, c'est vraiment le fun. Puis Pixel Cross Story of Seasons, qui est mon jeu de Picross là, que je joue sur Steam Deck à tous les jours encore. C'est le fun, ce jeu-là. Je pense que je peux avoir une quinzaine d'heures dedans, mais c'est des petits puzzles que tu peux booker en 3 minutes. Là. 3, 4 minutes, 5 minutes. Quand ça n'a vraiment pas bien été, 10-15 minutes quand c'est vraiment un dur. Mais tu sais, c'est des tuiles de 20 par 25, 15 par 15. Si tu ne prends pas d'indice, des fois c'est plus long. Et puis j'ai passé déjà 10-15 heures dedans. Ben, dites-vous que j'en ai fait un méchant paquet. Mais c'est le fun puis c'est relaxant. T'sais. Fait que allez voir ça, le Pixel Cross. Ça fait quelques fois que j'en parle, là, ma critique est sur la chaîne YouTube de Salon Gaming, comme celle-là de Mini Shoot aussi. Là. J'ai plein de tests de jeux Steam Deck, allez voir là-dessus. Ou directement sur notre site salongaming.ca. Bref, c'est l'heure de la conclusion. Ouais, c'est ce qui met un terme déjà à l'épisode 110 du podcast Jeux vidéo, le Sound Gaming de M. Smith. J'espère que tu as apprécié l'heure qu'on a passée ensemble, n'est-ce pas? Moi, puis ton tes haut-parleurs, n'est-ce pas? Puis toi-même. Merci bien gros d'être à l'écoute. Je le dis jamais assez, ça. Je vous remercie bien gros. Partagez le podcast à tous vos amis, à votre famille, cousins, cousines, au travail, au repos, dans les loisirs, n'importe qui. J'aimerais ça qu'on ait des milliers d'écoutes du podcast. Partagez-le, pour vrai. Ça me donne 0$, mais c'est juste pour le plaisir de le faire. Tu sais, plus on parle à des gens, plus on se rend compte que notre... que le Sound Gaming se voyage encore plus de même. C'est tellement jouissif et satisfaisant. Puis à tous ceux qui commandent des fois, qui sont heureux, qu'on voit les annonces pour dire qu'on a un enregistrement à faire ce soir, on a fait de même. Je vous remercie, vous me crainquez, vous donnez de l'énergie puis de la belle motivation pour toujours continuer à Sound Gaming de M. Smith puis à grandir là-dedans. Vous savez comment j'aime ça faire les podcasts. Je remercie encore une fois d'ailleurs toute mon équipe du Sound Gaming de M. Smith qui me font confiance au fil des mois puis des années comme ça. Merci bien gros les boys d'être là. Allez voir sur salongaming.ca le test de El Shaddai Ascension of the Metatron HD Remake, le plus récent test de M. Ben. Ça va l'air bien hot. Puis finalement, il a été un peu déçu. Les sauts dans ce jeu-là étaient une marde. Tu sais, c'est un jeu d'action, tu sais, genre, mettons, un Stellar Blade, grossièrement. Mettons, un Stellar Blade, ça reste un jeu de 2011 porté aujourd'hui, mais avec une caméra fixe, avec plein de trous à jumper. Mais quand il faut que tu sautes dans un jeu d'action... vu troisième personne, que tu frappes à l'épée sur des passerelles en mouvement avec une caméra fixe, puis que l'ombre n'est pas tout le temps à bonne place autour du bonhomme, c'est vraiment dur. Monsieur Ben a traversé toutes sortes d'émotions. Maintenant, il m'a dit, Steve, je suis plus capable, je suis tanné, je m'excuse, mais là, c'est du travail faire ce jeu-là. J'arrête, je le désinstalle, fuck off. Je dis, regarde, c'est correct, man, je te force pas, c'est bien correct. Après ça, ben, je pense que les remords y ont pris. Deux jours après, il m'a dit, Steve, et je l'ai fait pour Twiman, je l'ai réinstallé, puis je l'ai fini le jeu. Il a repassé un autre 4 heures dedans, vous pouvez le voir dans son test. Un très bon texte d'ailleurs de M. Ben, allez voir ça sur salongaming.ca, le test de El Shaddai. Il en a souffert à mon ami, mais regarde, il a réussi, il l'a passé, bravo man, il est vraiment fort. Fait qu'allez voir ça, le test là. Il y aura Richman 11 aussi, qui est prochainement publié sur le site aussi, un jeu de plateforme, un board game genre un peu... genre qui est en train de tester sur PS5, ça va paraître bientôt. Sinon, moi, je teste absolument rien présentement. C'est bien correct de même, ça me fait du bien à un moment donné d'avoir une pause de test. Mais là, j'ai hâte de jouer. Il y a SNES Saga Hellblade 2, tu sais, qu'on parlait tantôt, là, qui check les bains à se faire attaquer par le monde. Là. Mais en review bombing, parce que c'est Xbox. Là. Mais SNES Saga Hellblade 2 qui sort dans quelques semaines, dans quelques jours. Ben hâte de plonger là-dedans. Ça a l'air tellement beau. Puis enfin, oui, une grosse exclue Microsoft. Fait qu'on a bien hâte de jouer à ça. Il sera Game Pass, bien sûr. Puis sinon, il y a un jeu, G.I. Joe, Rat of Cobra, qui est un beat'em up, un beat'em all, genre, tu sais, Final Fight, Double Dragon, ces jeux-là, le vu de côté que tu fais dans le temps, Tortue Ninja, Shredder's Revenge, mais là, c'est avec les G.I. Joe puis les Cobra. J'ai découvert ça il y a peut-être 2 mois, puis le jeu n'est pas sorti encore, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, il marque prochainement, puis c'est écrit 2024. C'est fait par le studio canadien Maple Powerhead Games, qui est un petit studio canadien qui n'a pas l'air d'avoir énormément de budget non plus. Ils font ce jeu-là. Clairement, beaucoup d'amour pour la franchise G.I. Joe. Moi, ça me rappelle tellement de souvenirs de jeunesse. Vous savez comment que je suis un nostalgique? Je l'ai dit souvent, je l'ai dit tantôt. Tout ce qui est Transformers puis G.I. Joe, moi, dans le temps, j'ai capoté les Transformers Génération 1, là, puis les G.I. Joe, avec G.I. Joe. Tu sais ça, là, j'ai adoré ça. Mais il va y avoir un jeu de ça. Les images sont super belles. Je m'attends pas non plus à un jeu de l'année, là. Mais ça a l'air cool de pouvoir choisir, mettons, Snake Eyes, Luke, je sais pas moi, Scarlett, Roadblock. T'sais, quel bonhomme que tu vas prendre, puis contre les Cobras, est-ce que tu peux faire l'inverse aussi, je sais pas. Tu peux-tu prendre Commandant Cobra, ou Destro, Storm Shadow, tu sais, je sais pas quel bonhomme. Zartan, il y en a plein de bonhommes. Je sais pas, ça va être cool de plonger Scarlett. Il y avait, comment elle s'appelait, la Baronne, Major Blood. Il y en avait tellement des bonhommes là-dedans. C'était cool, G.I. Joe. Fait que j'ai hâte de voir ce jeu-là. Pour vrai, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais je pense que ça va être un day one pour moi. Je pense qu'il va être moins cher que Contra Opération Galuga. Fait que lui, je vais l'acheter tout de suite, parce que Contra, je l'ai pas acheté encore. J'ai de la misère à payer 50$ pour ça. C'est ça le problème. Moi, j'attends juste qu'il baisse. Mais qu'ils soient rendus genre à 30$, OK, go, je vais l'acheter. Mais 50$ pour jouer une demi-heure, ça me tente moyen, tu sais, puis je sais que c'est quand même dur, ces jeux-là, fait que, tu sais, il faut que j'aie du plaisir, puis si jamais c'est trop dur pour moi, je vais dire, hey, 50$, j'aurais pu faire autre chose avec ça, fait que une baisse de prix d'un 20$ à peu près, puis je vais faire le saut, puis là, je pourrais vous en parler, mais j'attends, grand fan de contrat que je suis, mais j'attends quand même une baisse de prix, parce que je trouve ça cher, 50$ pour un contrat, justement. En même temps, tu vas me dire, oui, mais ton père a payé 80$ dans le temps pour Contra 1, oui. C'est sûr. Puis même chose pour Super C, même chose pour Contre toi. Mais là, c'est sûr, je te dis, là, c'est moi qui paye. Là, fait que ça me gosse. Fait qu'on verra bien pour ça. Bref, c'est ça, les amis. On s'en rejoint dans 2 semaines pour l'épisode 111 du podcast Long Salon de Gaming de M. Smith. C'était un plaisir de vous parler semaine après semaine. Fait que portez-vous bien. Je vous aime bien gros, puis à très bientôt. Bye-bye.